VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'attentat de Manchester au Royaume-Uni. Opération revendiquée par le groupe État islamique et effectuée par un kamikaze. La police britannique fait état de l'arrestation d'un suspect de 23 ans dans le cadre de l'enquête. L'attentat suicide contre une salle de concert de Manchester a surtout visé des enfants et adolescents. La police connaît maintenant l'identité de l'auteur, selon la première ministre britannique Theresa May. L'attaque a fait des dizaines de morts et de blessés dans le foyer de la Manchester Arena à la sortie d'un concert de la pop star américaine Ariana Grande. Quel est le tout dernier bilan des victimes, Jean-Roger Bion?
La police britannique signale des enfants parmi les 22 morts. D'après Scotland Yard, l'auteur de l'attentat est mort en faisant exploser son engin. Une foule de témoins a affirmé avoir entendu une puissante explosion qui a provoqué des scènes de panique dans la salle de concert, mais aussi en dehors où des parents attendaient la sortie de leurs enfants.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a vivement condamné l'attentat de Manchester, perpétré, selon lui, par des perdants malfaisants. Y a-t-il d'autres réactions, Jean-Roger?
Côté réaction, le président français Emmanuel Macron a fait part mardi de son effroi et de sa consternation après l'attentat et a annoncé qu'il s'entretiendra avec la première ministre britannique Theresa May. La classe politique canadienne a exprimé sa consternation lundi soir. La première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin.
Merci Jean-Roger Bion. Le président des États-Unis, Donald Trump, continue sa tournée au Proche-Orient. Le chef de l'exécutif américain s'est engagé ce mardi à Bethléem, en Cisjordanie occupée, à tout faire pour aider les Israéliens et les Palestiniens à conclure un accord de paix. La paix est un choix que nous devons faire chaque jour et les États-Unis sont là pour aider à rendre ce rêve possible, a déclaré M. Trump en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, avec lequel il s'est entretenu dans la matinée. Donald Trump quitte la région dans la soirée à destination du Vatican, prochaine étape de son premier voyage à l'étranger depuis son investiture au début de l'année. Afrique maintenant, en RDC, le procureur général de la République, Flory Kabange Numbi, a annoncé ce mardi à Kinshasa qu'il enquêtait sur l'implication présumée d'un député congolais de l'opposition dans les violences qui secouent depuis septembre dernier la région du Kasaï, dans le centre du pays. Deux experts de l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédo-Chilienne Zaida Catalan, en mission au Kasaï pour le secrétaire général des Nations Unies, dans le but d'enquêter sur ces violences, y ont été enlevés et assassinés en mars. Samedi, le quotidien américain New York Times a révélé que Zaida Catalan détenait un enregistrement sonore du député Clément Kankou en conversation téléphonique avec un des présumés auteurs des massacres au Kasaï. Soudan du Sud, le président Salva Kiir a proclamé lundi un cessez-le-feu unilatéral et lancé un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile. Ce processus n'inclut pas son vieux rival, l'ex-vice-président Riek Machar, Morgan Giriek.
Je déclare une nouvelle fois un cessez-le-feu unilatéral, effectif à partir d'aujourd'hui, pour que nous puissions créer l'environnement nécessaire à un dialogue inclusif. C'est ce qu'a déclaré Salva Kiir en présence du président ougandais Yoweri Museveni. Ce n'est pas la première fois que M. Kiir s'engage à déposer les armes depuis le début de la guerre civile en 2013, sans que cela se concrétise sur le terrain. Il a aussi averti que l'armée gouvernementale gardait le droit de se défendre. Le président sud-soudanais avait annoncé en décembre ce dialogue national. L'opposition avait salué cet appel, mais refusé d'y prendre part. Le président Kiir a renouvelé sa promesse d'ouvrir à tous ce dialogue, à l'exception du leader de l'opposition, l'ex-vice-président Riek Machar, et de garantir la sécurité de tous les participants. Si Riek Machar venait, il causerait une nouvelle guerre à Djouba, mais s'il a une délégation de gens en qui il a confiance, qu'il les nomme pour qu'ils viennent à Djouba. Nous garantissons leur sécurité, a-t-il déclaré.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, 3 personnes ont été tuées ce mardi lors d'affrontements à Bouaké dans le centre du pays entre la police et des ex-soldats démobilisés qui bloquaient l'entrée de la ville et réclamaient des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé le pays la semaine dernière. Les 3 corps ensanglantés ont été amenés au centre hospitalier universitaire de Bouaké peu après l'assaut des forces de police qui ont dispersé vers 7h. Heure locale étant universelle, les manifestants en question. Le témoignage de notre confrère Isaac Koné de Radio Albayan.
Ce matin, alors que nous étions encore sortis, nous avons entendu des coups de feu. Et lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, il s'est avéré qu'il y a eu des forces régulières qui nous ont dit qu'il y a les démobilisés qui avaient lancé l'assaut et le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, a riposté à travers des grenades et par la suite des gaz lacrymogènes. Ce jet de gaz lacrymogène a favorisé, dénoué la situation. Maintenant, c'est que nous enregistrons 3 morts officiellement des sources proches, des sources médicales, 3 morts et plus d'une dizaine de blessés. Au moment où nous quittons le CHU, les blessés continuent de venir toujours. Je peux vous rassurer que le corridor est ouvert et il est sous le contrôle des forces de l'ordre.
Isaac Koné de Radio Albayan, notre station partenaire en Côte d'Ivoire. Les démobilisés réclament 18 millions de francs CFA de primes. Et puis, des jeunes filles de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ont démontré tout dernièrement, d'accord, qu'elles pouvaient être à l'avant-garde de la technologie. Elles ont réalisé cette prouesse en participant à un concours de robotique le week-end dernier dans la capitale sénégalaise. Le point avec Michel Joseph.
Entre le show télé et la conférence technologique, la Pan-African Robotics Competition, ou PARC, a été initiée par Sidine Dao, professeur de l'Université de Nebraska-Lincoln, qui a quitté le Sénégal pour les États-Unis alors qu'il était adolescent.
Nous avons remarqué que la plupart des pays qui sont développés, comme les États-Unis, ont fondé leur développement sur la manufacture et l'industrialisation. Les pays africains sont loin derrière dans cette course. Alors, nous avons pensé que ce serait une bonne idée d'inspirer les enfants et leur parler de l'importance de la manufacture, de l'industrie et de la création pour produire le développement.
Pour ce passionné de technologie, découvrir les sciences est une source d'inspiration, pouvant donner aux enfants une vocation d'ingénieur ou de scientifique. Désormais financée par la Banque mondiale, la PARC en est à sa 2e édition. Elle a réuni 250 adolescents avec un accent particulier sur les filles. Ces jeunes ont été répartis en 3 groupes. Le premier groupe a travaillé sur les robots, le second sur des machines et le troisième groupe devait développer un nouveau produit typiquement africain. La Sénégalaise Rokiaha Sissé, 17 ans, a aidé son équipe à fabriquer un robot détecteur de métaux qui envoie des signaux dans le sous-sol avant de commencer à creuser.
C'est vraiment très intéressant, on s'est beaucoup amusé parce qu'on apprend de nouvelles choses et on n'avait pas vraiment d'opportunité par le passé de pouvoir manier des robots.
Le jeune Aboubakar de la Gambie explique.
C'est un robot qui traduit en réalité tout ce que vous dessinez dans l'ordinateur. C'est un peu difficile. Il y a tellement de compétitions, mais nous essayons. J'ai appris comment assembler un robot et programmer un ordinateur.
L'école de filles Mariam Abba sur l'île de Gorée a remporté un prix pour une pompe made in Africa contre les inondations. Oumu Tarawali, une Gambienne de 14 ans qui veut devenir médecin, a de son côté expliqué comment l'arachide pouvait être transformé en carburant. Sidine Dao, l'organisateur de l'événement, enseigne dans un département formant des ingénieurs à l'Université du Nebraska à Lincoln.
J'ai réalisé combien les enfants aiment la robotique et combien ils sont passionnés de science, au point même où, à l'heure du déjeuner, nous devons les convaincre d'aller manger. Et lorsqu'il est temps de rentrer, personne ne veut quitter le lieu.
Selon lui, les gouvernements et le secteur privé doivent beaucoup plus investir dans l'éducation dans ces domaines, plus particulièrement au niveau universitaire. M. Ndao regrette le manque criant de professeurs et d'éducateurs qualifiés, sans parler des établissements scolaires qui manquent d'électricité, d'eau courante et d'infrastructures, alors que l'accès à un ordinateur reste toujours un luxe pour la plupart des élèves, surtout en zone rurale. À peine plus de la moitié des enfants terminent leur cursus scolaire et la tradition considère toujours que les filles ont mieux à faire à la maison que sur les bancs de l'école. De l'avis des spécialistes, mettre l'accent sur l'accès aux sciences permettrait de briser le cycle des problèmes en Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.